Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Lili Yvan Lutumba.
Cette fois-ci, c'est la bonne Kinshasa gagne. La RDC va siéger désormais au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. À l'issue des élections tenues il y a quelques heures, notre pays rafle 172 voix sur un total de 190. Nous vous en parlons en temps de ce journal. Naufrage sur le lac Kivu, les violences s'accordent quant à l'organisation des obsèques. Gouvernement central, provinciaux et les familles conviennent de la manière à procéder pour enterrer dignement les personnes décédées. Avec notre invité, Dr Joseph Matundanya, coordonnateur du programme élargi de vaccination dans le Sud Kivu, donne des orientations et précisions sur le déroulement de la vaccination contre le Mpox dans cette province. Tout ceci et bien d'autres faits d'actualité du Congo profond, c'est tout de suite sur Radio Okapi, en qui votre confiance ne faiblit point. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir. La RDC siégera désormais comme membre au Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme pour le mandat allant de 2025 à 2027. Elle a recueilli un total de 172 voix sur un total de 190 votants. Ce retour de la RDC sur la scène internationale en matière des droits de l'homme est salué par les activistes des droits de l'homme au pays. Ronelly Timbonera.
Aux côtés de la République démocratique du Congo, plusieurs autres pays ont été élus pour les mêmes mandats. Les Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, les Kenya, les îles Marshall, le Mexique, la Macédoine du Nord, les Qatar, la République de Corée, l'Espagne, la Suisse et la Thaïlande. Cette élection permet à ces pays de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Pour la militante de droits humains, Chantal Faïda, ce succès de la RDC est une occasion pour Kinshasa d'améliorer la situation des droits de l'homme sur l'étendue de son territoire.
Siéger dans des instances au niveau international donne une certaine crédibilité en termes d'engagement du pays pour le respect des droits humains au niveau le plus bas. Demande à tous les peuples congolais de se mobiliser pour redonner l'image positive de la RDC, cette image qui doit valoriser son élan au niveau diplomatique.
Le Conseil des droits de l'homme, basé à Genève, est composé de 47 États membres, élus pour un mandat de 3 ans. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde.
Dans la province de la Tchopo à présent, le processus d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC se poursuit de plus belle. 2 mois après l'avènement d'une nouvelle équipe dirigeante à la coordination des Frivao, environ 1000 victimes ont bénéficié de leur indemnisation. Alors que les bénéficiaires s'en réjouissent, le coordonnateur de cet établissement public rassure ceux qui ont été certifiés. D'ici 2 semaines, Chansar Bolukola espère que tout le monde sera servi. Le point avec Jean-Jacques Mukonkole.
Ce sont exactement 988 personnes qui ont déjà perçu chacune son enveloppe. Mardi, beaucoup d'autres victimes éligibles ont pris d'assaut les guichets de la banque pour retirer leur argent. L'une d'elles se dit satisfaite en dépit du montant qu'il juge dérisoire au regard des biens qu'il a perdus.
On n'avait pas la conviction que non, un bon jour, nous pouvions être remis dans nos droits. Mais aujourd'hui, nous sommes remis dans nos droits, bien que c'est un montant forfaitaire, mais nous sommes dans le sentiment de joie.
Chaque personne éligible touche une somme forfaitaire de 2 000 $ américains. Comment expliquer cela pour le coordonnateur intérimaire de Frivao? Cette disposition n'est que provisoire.
À l'issue des résolutions prises avec le député national, mais aussi provinciaux, ont fixé ce montant de 2 000 $ en attendant bien sûr que l'identification au sein de la République tout entière, je vois la Grande Orientale de Mamré, arriver à sa fin. On pourrait alors catégoriser pour respecter l'esprit de l'arrêt.
Le coordonnateur intérimaire de Frivao rassure que les 3163 victimes certifiées seront toutes servies d'ici 2 semaines. Après, interviendra l'examen des autres dossiers qui avaient été écartés pour diverses raisons. Jacques Mukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité dans la province de l'Ituri. Une trentaine de personnes tuées en l'espace d'un mois par les rebelles des ADF dans la chefferie de Babila Babimba en territoire de Mambasa. Ces chiffres ont été publiés ce mardi par les acteurs de la société civile locale ainsi que les défenseurs des droits de l'homme. À cette occasion, ils alertent les autorités sur l'occupation par ces rebelles des plusieurs entités à vocation agricole dans cette région. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation sécuritaire reste volatile sur l'ensemble du groupement Bakaeku à 140 km de Mambasa Centre. En cause, l'insécurité causée par l'activisme des rebelles des ADF dans la région. D'après des acteurs de la société civile locale, cette agglomération subit presque chaque jour des attaques répétées de ces mouvements rebelles et leurs supplétifs Maïmaï qui terrorisent la population en majorité des agriculteurs. Le dernier cas est celui survenu du 4 au 5 octobre dans le village de Luindi où ils ont commis plusieurs exactions contre les civils dont l'incendie des maisons. Ils ont également été aperçus la veille dans les villages Makoko et Mikoli. John Vuleverio, un activiste des droits humains dans la région, avance un bilan de 32 personnes tuées depuis le 7 septembre et plus de 8000 personnes en déplacement. Ce bilan pourrait être revu à la hausse car plusieurs localités restent encore sous occupation de ces rebelles, précise-t-il. Des notables de cette entité demandent aux armées, FARDC et UPDF, d'intensifier les opérations dans cette région pour mettre hors d'état de nuire ces mouvements rebelles. Nous attendons encore la réaction de l'administrateur du territoire à ces sujets. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À 19h07 dans le Nord Kivu, nous entamons cette deuxième partie du journal au niveau de, pour la partie Est Nord Kivu. Les autorités nationales et provinciales ont finalement trouvé un terrain d'entente avec les familles des victimes du naufrage pour organiser l'enterrement digne des victimes. Dans une déclaration faite devant les familles à l'hôpital général de Goma cet après-midi, le gouverneur du Sud Kivu indique que les familles qui veulent récupérer les corps de leurs proches ont carte blanche et peuvent organiser l'enterrement, tandis que tous les corps qui doivent aller au Sud Kivu seront rapatriés vendredi avec les moyens du gouvernement. Jean-Jacques Pourossi, gouverneur du Sud Kivu, revient sur cet accord tacite entre les deux parties dans cet extrait choisi par Sifamaguru.
Il y a eu un processus d'identification des corps qui a déjà été amorcé depuis pas mal de temps. Donc les corps qui sont sollicités par les familles sont certifiés appartenir aux familles en question. Je suis ravi que les familles sont soulagées de savoir qu'elles peuvent maintenant récupérer les corps des leurs pour aller les enterrer dignement. Parce qu'il y a des membres de famille qui disent non, au lieu qu'on le fasse, au lieu que l'État le fasse, nous avons des moyens, nous voulons récupérer les corps, aller les enterrer selon les rites, selon les traditions, selon la culture et la sensibilité familiale, dans la parcelle familiale par exemple, ce qui a été fait. Mais nous, au niveau de la province, nous venons d'acheter un terrain à Minova, nous venons d'acquérir un terrain parce que jusque-là, il n'y avait pas de cimetière. Avec les moyens dégagés par l'État, les moyens sont disponibles pour enterrer des personnes dignement. Donc les frais de cercueil, les frais de manipulation des corps, les frais de transport de ces corps ont été mobilisés.
Rappelons que les familles des victimes avaient manifesté ce mercredi dans la matinée pour réclamer les corps de leurs proches, alors que les autorités cherchaient un terrain pour ériger un cimetière commun à Minova. Au sujet toujours de cette actualité sur le naufrage, la population du Nord Kivu, notamment les familles des victimes, voudrait être informée sur le bilan précis de l'accident du 3 octobre sur le lac Kivu en mettant l'accent sur le nombre surtout des personnes disparues. Elle demande à notre gouvernement de mettre tous les moyens afin de dégager les corps qui seraient éventuellement coincés sous les décombres du bateau. La réouverture de la route Sake-Minova est aussi l'une des requêtes urgentes. C'est ce que déclare le député national Jules Mugiraneza qui a rencontrer les rescapés et les familles des victimes pour compatir avec eux. D'après cet élu de Massissi, il est incompréhensible que tous les autres axes occupés par les rebelles soient ouverts au trafic, sauf celui de Sake-Bouremana Minova. Il plaide auprès des autorités provinciales et nationales pour que cet axe soit ouvert d'urgence au trafic et afin d'épargner les vies des populations. On l'écoute au micro de Sifamaguru.
Concernant le bilan officiel, 30 de ces 80 survivants, c'est largement en dessous de la vérité. Les gens ont envie de connaître combien il y avait et combien sont encore disparus. Et demander au gouvernement de mettre beaucoup de moyens pour qu'on puisse dégager les corps qui sont sous les décombres, pour qu'ils soient enterrés dignement. Et en plus, c'est surtout tout le monde insiste, toutes les familles que nous avons visitées, vivant au bord du lac, qu'on ouvre la route. Sake Bolemana Minov. Il n'y a aucune raison. Comment on peut comprendre que partout les voies soient ouvertes pour aller à l'intérieur, mais que nous, la seule voie qui pouvait nous aider, Sake Bolemana Minov, on a fermé. Donc, moi-même, j'en fais mienne parce que c'était ma préoccupation. Comment on peut comprendre que quelqu'un peut quitter avec moto, il quitte ça, qu'il va à Mouchaki, Matanda et partout ailleurs.
Les axes qui sont sous occupation.
Sous occupation. Il va à Kabati, il va à Kichanga, ce sont des axes sous occupation. Toutes les populations riveraines des lacs et toutes les montagnes, même ceux qui quittent de loin à Calais et ailleurs, c'est la seule voie pour arriver à Goma, c'est fermé.
Et dans le Maïndombé, c'est plutôt des réflexions pour prévenir les naufrages récurrents après un constat amer dans le secteur de la navigation dans cette province. Il n'y a pas d'engin pour traquer les embarcations qui violent les règles établies comme la navigation nocturne et la surcharge. Les services assistent impuissants ces dérapages. Et comment mettre fin aux naufrages à répétition? Le gouverneur Kosoke Vani propose la tenue des états généraux de la navigation avec tous les services qui dépendent du gouvernement central. Il s'est ainsi exprimé après l'ouverture à Inongo d'une tripartite sur les causes des naufrages dans le Maïndombé. Irène Beaumont.
Cette tripartite gouvernement, transporteurs et armateurs tenus à Inongo, chef-lieu de la province du Maïndombé, fait un état des lieux malheureux du secteur de la navigation dans cette partie du pays qui enregistre plusieurs cas de naufrages sur les lacs, les fleuves Congo et les rivières. Le gouverneur de cette province, Lebon Kosoke Vani, qui l'a fait savoir lors d'une interview, explique.
La plupart d'armateurs prennent des embarcations à location, donc ils ne sont pas propriétaires. La deuxième, c'est tous ces services-là, en commençant par la division provinciale des transports, les commissariats fluviales, la police fluviale, la régie des voies fluviales, aucun service n'a une embarcation pour interpeller, par exemple, une embarcation qui essaye de prendre les lâches.
L'autorité provinciale propose au gouvernement central d'organiser les états généraux de la navigation pour lever les options.
En tout cas, je propose qu'il y ait les états généraux de la navigation, et surtout ici chez nous dans les Maïndombé, mais c'est pratiquement chaque trimestre qu'il y a ces cas récurrents des naufrages. Il en est ainsi dans d'autres provinces.
Lors de cette tripartite, les participants ont recommandé au gouvernement provincial la dotation des embarcations sécurisées pour garantir de bonnes conditions à la population. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Dans le Sud Kivu, le ministère provincial de la Santé, à travers le programme élargi de vaccination, organise du 10 au 12 octobre la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Les enfants de 0 à 5 ans sont la principale cible pour cette vaccination. C'est ce qu'a annoncé la division provinciale de la Santé ce 7 octobre lors d'un briefing tenu à la division provinciale. Les professionnels de santé appellent les parents à collaborer pour la faisabilité de cette vaccination, comme nous le dit Rachel Kiesem.
Les 34 zones de santé du Sud Kivu sont concernées par la vaccination contre la poliomyélite qui vise à atteindre 1 600 000 enfants durant ces 3 jours. La stratégie utilisée par les vaccinateurs reste le porte-à-porte. C'est ce qu'affirme le docteur Claude Baïziré, chargé de communication à la DPS Sud Kivu.
Donc ce sont des vaccinateurs qui vont passer de ménage à ménage pour essayer de vacciner tous les enfants. Et au total, nous avons autour de 1 800 000 enfants. De 0 à 5 ans que nous devons atteindre pendant les 3 jours. Nous demandons à tous les parents de s'irradier pour faire vacciner tous ces enfants. Nous avons toujours annoncé que la polio reste un problème de santé publique parce que même l'année passée, notre province a eu des cas de polio où les enfants sont devenus infirmes. Le seul moyen d'aider ces enfants à éviter la polio, c'est la vaccination. Parce qu'il n'y a pas de médicaments contre la polio. Si un enfant est atteint de la polio, c'est fini. Il reste infirme toute sa vie. Avec 2 gouttes qu'on donne à cet enfant, ça peut l'aider.
Signalons que c'est la 3e phase de vaccination contre la poliomyélite qui sera organisée en 2024 en RDC. Bukavu, Rachel Kiesse, Radio Okapi.
Nous revenons ici à Kinshasa avant de nous rendre hors du pays. C'est ce vendredi que chaque bourgmestre de la ville de Kinshasa doit déposer auprès du gouverneur de la ville le plan des communes pour la gestion des déchets et de l'insécurité au sein de leurs communes respectives. Décision issue des discussions lundi 7 octobre avec le gouverneur Daniel Bumba. Il insiste pour l'éradication de l'insécurité et la nuisance sonore au sein des communes.
Actualité internationale.
Un vol de Turkish Airlines reliant Seattle à Istanbul a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence à New York après que l'un des pilotes se soit effondré en plein vol, a confirmé la compagnie aérienne mercredi. L'incident s'est produit peu après le départ du vol de Seattle mardi soir. Malgré les efforts immédiats pour administrer les premiers soins, le pilote de 59 ans est décédé avant que l'avion ne puisse atterrir, selon une déclaration du porte-parole des Turkish Airlines partagée sur les réseaux sociaux. L'Airbus A350 qui assurait le vol TK-204 a été dérouté vers New York par le copilote et le reste de l'équipage. Et puis, Rim Al-Salem, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, tire la sonnette d'alarme face à leur situation dans le milieu du sport. Elle évoque un problème grave, systémique et systématique qui nécessite une réaction immédiate. Dans le rapport partagé par l'ONU, différentes formes de violence sont dénoncées.
L'invité.
Lancée le 6 octobre dernier à Luiro, la campagne de vaccination contre la variole de singe au sud Kivu ne concerne pas les enfants dans cette première phase. C'est ce qu'affirme Dr Joseph Matundanya, coordonnateur du programme élargi de vaccination PEV Sud Kivu. Il est notre invité et donne d'autres précisions. Il s'entretient avec Rachel Kiesembangu.
Docteur Joseph Matundanya, bonjour.
Bonjour.
La vaccination a débuté au Sud Kivu ce dimanche 6 octobre. Combien de vaccins sont disponibles? Combien de personnes sont-elles attendues?
Oui, en fait, on a lancé la campagne de vaccination contre la maladie de Mpox. C'était par le directeur de cabinet, le ministre national de santé publique, hygiène et prévention sociale, dans la zone santé de Miti, Mouressa et précisément au niveau du site de l'Uro. Bien sûr, c'est pour répondre aux besoins de la population et surtout lutter contre l'épidémie qui a commencé dans notre province depuis l'année passée. Nous avons reçu 29 812 pour desservir d'abord pour trois zones de santé. Il y aura un autre complément qui viendra pour renforcer les stocks de vaccins dans la zone de santé de Miti-Mouressa. Et officiellement, c'est le 6 octobre 2024 qu'on a lancé la campagne dans ces quatre zones de santé, notamment la zone de santé de Miti-Mouressa, la zone de santé de Nyangezi, la zone de santé de Kamituga et la zone de santé d'Uvira. Nous nous attendons à une cible de 47 911 personnes qu'on doit vacciner. Bien sûr, dans ces chiffres, c'est plus le personnel de santé de première ligne. Il y a les personnes plus exposées, notamment les personnes contacts, et la population clé, où il y a plusieurs catégories, donc toutes les personnes à risque et adultes, bien sûr, seront concernées par cette vaccination. Nous signalons que les enfants ne sont pas concernés par ce premier passage et on est en train de travailler pour rendre disponible le vaccin pour les enfants et ainsi on pourra vacciner les enfants.
Justement, parlant d'enfants, selon le ministre de la Santé, dans un communiqué qu'il a rendu public, 70% des décès sont des enfants au moins de 5 ans. Pour le moment, le vaccin ne concerne pas les enfants. Quels mécanismes sont mis en place pour contrer justement cet état de choses?
Oui, il est vrai que la plupart des malades de Mpox, ce sont des enfants, soit autour de 70%. Mais la vaccination va concerner les adultes, tout simplement parce que les vaccins qui sont disponibles, l'MVA, c'est un vaccin qu'on donne aux adultes. Mais le pays est en train de travailler pour mettre à la disposition de sa population le vaccin pour les enfants. C'est le vaccin LC16. Ce vaccin n'est pas encore disponible, mais les démarches sont en cours pour que le vaccin soit disponible. Maintenant, pour le moment, comme les enfants constituent un grand nombre de malades de Mpox, comment on doit... Je vais répondre que c'est la vaccination ne suffit pas pour lutter contre la maladie Mpox. Avant la vaccination, il y avait des mesures de riposte qui étaient mises en place. Notamment, il y avait les mesures d'hygiène, c'est-à-dire éviter les contacts avec les personnes malades, éviter d'être en contact avec les bêtes ou les animaux malades, ou manger la chair de bêtes malades. Et aussi, il y avait toutes ces mesures d'hygiène, plus la surveillance qu'on devrait mettre en place pour identifier rapidement le cas et le prendre en charge. Donc la prise en charge précoce sont des mesures qu'on a mises en place pour lutter contre cette maladie.
Docteur Joseph Matundanyan, coordonnateur du programme élargi de vaccination Sud Kivu, qui s'entretenait avec Rachel Kessembangou sur la campagne de vaccination contre la variole du singe dans le Sud Kivu. Amis auditeurs, c'est par là que nous mettons un terme à cette édition de journal sur Radio Kapi, mise en onde par Billy Landry Beto. Présentation de Billy Ivan Lutumba. Ce journal vous a été préparé par Pelé Kipela Mondo, Richard Junior Kamunga et l'ensemble de toute la rédaction. Merci de nous avoir suivis.